Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Et c'est parti pour la sixième saison de Prenons un café. Pour la débuter, je reçois celle qui va prochainement faire de mon rêve une réalité. Charlotte, la fondatrice de Comme Happy, ta maison ressource située à Marquette-les-Lille, dans la métropole lilloise. Ce rêve, c'est celui de te proposer des sessions caféinées dans la vraie vie, de nous rencontrer autour de sujets de parentalité, sans tabou ni complexe, autour de bonnes choses à manger. De papoter, d'échanger et de se rendre compte ensemble que nous ne sommes pas seuls à galérer. La première session de ce que nous avons appelé les soirées Prenons l'apéro aura lieu jeudi 21 septembre à 19h et aura pour thématique le couple après bébé, difficulté et baby clash. Je te mets le lien vers la page d'inscription en description de cet épisode. Mais revenons à Charlotte. Avant de créer Comme Happy, elle est devenue la maman de trois enfants de 11, 9 et 4 ans. Et quand elle est devenue maman, comme beaucoup d'entre nous, elle ne savait pas grand-chose de la parentalité, ni de ce que ça représentait vraiment d'élever des enfants. Alors des erreurs, elle en a fait. Quand sa première fille ne voulait pas manger et qu'elle a fortement insisté, alors qu'en fait elle a appris plus tard qu'elle était atteinte d'un trouble de l'oralité. Quand elle l'a laissé pleurer parce que c'est ce qu'on lui avait dit de faire et que ça l'a brisé de l'intérieur. Et puis, il y a eu le jour de trop, celui qui lui a fait comprendre que sa famille avait besoin d'aide, qu'elle est allée chercher et qui a éclairé son chemin. Aujourd'hui, Charlotte veut rendre ce qu'elle a reçu en éclairant le chemin des personnes qui en ont besoin, comme elle, elle en a eu besoin. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Charlotte.
Bonjour Élise.
Bienvenue sur Prenons un café.
Merci.
Tu vas voir, tout va très bien se passer.
Super.
En tout cas, je suis super contente de te recevoir sur le podcast. Est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît ?
Alors, moi je suis Charlotte, j'ai 38 ans, 3 enfants, 11, 9 et 4 ans, voilà pour les petits détails. J'ouvre une maison qui s'appelle Comme Happy, une maison autour de la parentalité, du développement personnel et du bien-être, sur Marquette, dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, du coup, il y aura des conférences, des groupes de parole, des ateliers, donc autour de ces trois thématiques-là. Donc, en collectif, dans une pièce de vie, vraiment, en fait, c'est une maison qui est... Enfin, je ne sais pas si je donne plus de détails tout de suite, c'est bien ?
Je dirai après la fin de ma phrase. Voilà. Continue.
C'est bon, je m'emballe. Donc, du coup, ouais, l'objectif, c'est de recevoir les gens comme s'ils étaient chez eux, dans un salon et dans une salle à manger, en collectif. Et en fait, en haut, j'ai des bureaux pour des praticiens, pour des rencontres en individuel.
Super. Tu sais que tu te rends compte que je t'ai demandé de te présenter et que tu m'as présenté comme Happy.
Oui, sans étonnement.
Qui es-tu, Charlotte ?
Alors moi, je suis qui ? Je suis Charlotte, voilà, je suis une maman, je suis une amoureuse. Ça fait 17 ans que je suis avec mon amoureux, voilà, qui s'appelle Julien. Je fais de la com depuis toujours. Je pense que je suis piquée, je suis tombée dans le chaudron toute petite en fait de ça. Donc c'était clairement une évidence pour moi d'être dans la com. Et du coup j'ai fait le traditionnel parcours de communicant, on va dire. Donc j'ai été dans l'opérationnel, dans l'événementiel, beaucoup. Donc sans étonnement aujourd'hui d'organiser des événements encore d'un autre, une autre échelle, on va dire. Et je suis partie, ça fait un peu CV ce que je raconte.
Bah, c'est ce qui est, j'allais pointer, c'est que c'est drôle parce que tu...
Très professionnel.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est que tu t'identifies beaucoup à la vie professionnelle. Ouais. Mais c'est intéressant. Ouais, on n'est pas là pour faire une psychothérapie, non. On est là pour faire un podcast. Je vais te poser la question traditionnelle.
Je ne sais pas que mon travail.
Voilà. Mais justement, on ne va pas parler de ton travail. Ouais. Ou très peu, tu vas voir. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café, Charlotte. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ?
Oui. Eh ben, moi, j'ai toujours été piquée. J'ai beaucoup joué à la poupée, tu vois, quand j'étais petite, vraiment. Et même quand j'étais un peu plus grande, vraiment, j'adorais ça. J'ai gardé des enfants. Enfin, voilà. J'ai toujours adoré le contact avec les enfants. J'ai pas fait mon BAFA, étonnamment, mais ouais, j'ai toujours voulu être maman. Et finalement, j'ai été maman à 27 ans, ouais, pour la première fois. ce qui peut être plutôt jeune finalement. Enfin, souvent on me dit ça, mais bon, j'ai pas l'impression que c'est aussi jeune que ça. Mais donc ouais, j'ai toujours voulu être maman.
Mais justement, c'est marrant, tu me parles des enfants. Mais est-ce que tu avais une idée de ce que ça voulait dire être mère avant de le devenir ?
Pour le coup, pas forcément. Je me rendais pas forcément compte de ça, tu vois. Oui, en gardant pas mal d'enfants, tu vois, je savais qu'il fallait faire le bain, les choses comme ça, tu vois, donner à manger, etc. Mais je pense qu'émotionnellement, je m'attendais pas forcément à ça. Parce qu'on n'apprend pas à devenir parent, n'est-ce pas ?
Non, on n'apprend pas, et clairement, et quand on pense à la maternité, avant d'avoir des enfants, on voit surtout les enfants.
Exactement.
On imagine sans doute cette vie de famille future, et parce que ça change de devenir mère. Comment ça s'est passé pour toi ? Donc, tu dis que tu as 3 enfants, ta première à 11 ans.
Exact.
Comment ça s'est passé pour toi le devenir mère il y a 11 ans ?
Bah justement, c'est rigolo que tu dises ça parce qu'il n'y a pas de hasard. Parce que je me suis rendu compte pendant la préparation à l'accouchement, où il y avait beaucoup de mamans qui avaient plein de questions. Et moi, j'arrivais toujours à dire, franchement, non, j'ai pas de questions. Alors, je trouvais toujours très pertinent et ça m'enrichissait leurs questions, tu vois. Mais j'avais pas forcément de questions, j'avais pas de vision, je savais pas à quoi ressemblait un accouchement. Dans l'idée, ça pouvait me faire un peu peur, donc voilà. Mais j'avais l'impression que, d'ailleurs, c'est très rigolo parce que j'avais l'impression que t'allais crier, que t'allais transpirer à fond. Et quand j'ai accouché de mon Alice, j'ai juste dit « Ah bon ?» Bon, j'étais un peu shootée. Et je me souviens d'avoir dit « Ah bon, c'est pas comme dans les films ?» Donc c'était drôle, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas forcément très bien passé l'accouchement, mais j'en retiens du positif, donc c'est assez drôle, parce que des fois j'oublie les choses négatives.
Mais non, mais c'est, en même temps, c'est un peu un instinct de survie d'oublier les choses négatives. Je pense qu'on n'aurait pas eu 3 sinon.
Non,
mais ouais, toi, t'avais une vision vraiment de la maternité, c'était comme dans les films, c'était vraiment ton référentiel, en tout cas sur l'accouchement. Et pas vraiment. Enfin, est-ce que tu avais autour de toi des amis, des copines ou de la famille qui devenaient mères en même temps que toi ?
En même temps, ouais. Ouais, on était quand même beaucoup à être enceintes en même temps. J'ai une copine qui a accouché 3 mois avant moi d'un bébé record de la maternité du Bois, pour ceux qui connaissent, qui sont lillois, à 5 kg 110 quand même, par voie basse.
Ça te faisait peur du coup ?
Carrément. Ouais. J'étais là, oh mon Dieu, 5 kg 110. Voilà. Ouais. Si elle m'écoute, Doro. Ouais. mais du coup, non, après, je lâchais prise. Je suis pas du style à être stressée, vu que je connaissais pas. Je me suis dit, bon, ok, on verra bien. Et puis la prépa à l'accouchement, c'est aussi fait pour ça, tu vois. Donc,
Oui, mais c'est de la prépa. Et tu vois, c'est marrant. Je vais pousser. Hein. Je vais pousser.
Vas-y,
pousse. Je vais pousser. Charlotte, tu me parles de prépa à l'accouchement, oui. Je te parle du devenir mère. Ça veut dire quoi pour toi, le devenir mère ?
Oh. Aujourd'hui, avec mon recul.
Ah oui, bah aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on échange.
Émotionnellement, c'est ça qui est... Ouais, tu sais pas trop à quoi t'attendre, clairement, t'arrives... Donc c'est plutôt l'émotionnel, et parce que, bah, en fait, tu sais pas, t'as pas de référence, en fait, même si t'as vu des autres enfants. Et en fait, quand tu demandais les copines... Bah, on était tous avoir les premiers ensemble, tu vois. Donc finalement, on était tous on sait pas trop à quoi s'attendre, tu vois.
Carrément.
Et on n'en parlait pas forcément de notre projection.
Est-ce que tu as 3 enfants. Est-ce que tu as toujours imaginé que tu aurais plusieurs enfants ?
Ouais, moi je voulais carrément 3 enfants.
Tu voulais 3 enfants ? Pourquoi ? Ouais. Tu sais dire pourquoi ?
Très certainement pour refaire le schéma familial. Hein.
Ouais.
J'aimais bien les 3, je trouvais ça cool.
T'as grandi dans une famille de 3 ?
Ouais. J'étais la petite dernière.
C'est vrai ?
La grande petite dernière. La petite dernière, ouais.
Et c'est quelque chose qui était plaisant pour toi ? C'est un bon souvenir ?
Ouais. J'aime bien, tu vois, j'aime bien la vie. Avant, je savais pas rester toute seule, par exemple.
Ah oui ?
Tu vois, bah, je pense que c'est aussi du fait que j'étais... une petite famille nombreuse, mais donc j'ai toujours trouvé ça cool qu'il y ait de la vie, et je me projetais carrément avec 3 enfants, sachant que mon homme est quand même enfant unique, et la dernière fois il me dit, qui est-ce qui aurait pu me dire qu'un jour j'allais avoir 3 enfants, enfin, c'est très drôle.
Est-ce que tu as eu besoin de le convaincre ?
Pour Simon, pour mon petit dernier, là j'ai ramé un peu, c'est pour ça qu'il a un petit écart d'âge, bon, parce que déjà de mon parcours pro-perso à un moment, mais c'était pas le moment en gros, à un moment quand j'ai dit j'aimerais bien... Et il m'a dit, ah non, attends, c'est pas possible. Et lui, il fallait qu'il accepte d'avoir potentiellement une 3e fille. C'était assez drôle. Et je lui ai dit, il faut qu'on ait un enfant. Et en fait, le jour où il m'a dit, c'est OK pour moi d'avoir un enfant, peu importe si c'est une fille ou un garçon. Donc, il n'y avait pas d'attente. Et ce qui était drôle, c'est que quand on a eu notre garçon, tout le monde dit, ah, enfin, un garçon. On dit, bah non, c'était tout aussi bien. Et même lui a dit, bah, si ça avait été une 3e fille, ça aurait été OK.
Ouais.
Mais les gens, qu'est-ce qu'ils projettent sur... Ah, enfin, le garçon, ok, ben, pff, Oui. Enfin, voilà.
De toute façon, à partir du moment où tu viens parent, t'es un peu dans le domaine public. Donc...
Oui, alors ça aussi, la pression sociale, je l'ai énormément ressentie.
Par rapport à quoi ?
Pour mon aîné. Ouais. Parce que j'ai une aînée qui galérait très fort à manger, c'était très compliqué. Donc nous avons fait des choses que je regrette aujourd'hui, mais je travaillais là-dessus. Mais...
Non, mais c'est important de le dire, tu vois, de parler des erreurs qu'on a faites.
Ouais. Moi j'ai été élevée dans il faut manger de tout, voilà. On avait le droit un petit peu à du ketchup et du pain, mais il fallait manger ton assiette. Tu finissais ton assiette aussi, j'ai été élevée comme ça. Et donc que ma fille voulait manger que des pâtes et rien d'autre, certainement pas des fruits et des légumes, c'était insupportable pour moi. Donc on a fait le truc traditionnel, justement. On lui a ouvert la bouche, on lui a introduit des trucs dans la bouche quand même. Oui. Hein. Aujourd'hui, on sait qu'elle a des troubles de l'oralité. Alors c'est pas du tout par rapport à ça, on le sait que c'est pas par rapport à ça, mais c'est sa spécificité aujourd'hui. Mais du coup, ce qui se comprend mieux, enfin voilà. En gros, c'est assez quasiment 10 ans que j'ai pu mettre tout ce puzzle de compréhension de ça. Mais du coup, je m'en suis voulu. Jamais de ma vie, à mes deux autres, on aurait fait ça. Et puis voilà, mais c'est tout. Voilà, je travaille là-dessus.
Mais tu ne connaissais pas aussi.
Non,
après,
il y avait vraiment une pression pour moi.
Et puis,
là-dessus.
Attends, tu es devenue maman il y a 11 ans. Il y a 11 ans, on ne parlait pas autant de tout ça. Et pour faire un récap, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que un trouble de l'oralité?
Oui, c'est vrai, c'est bien vu. En fait, je ne suis pas experte dans le domaine, mais on a vu des orthophonistes. Mais quand Alice était déjà grande, parce qu'on ne connaissait pas ce mot-là, et à l'époque, les orthophonistes n'étaient pas forcément toutes, d'ailleurs, elles ne le sont pas encore toutes,
formées,
à ça. En fait, c'est des choses qu'on veut beaucoup mettre à la bouche, ou soit justement, on a des dégoûts de choses, d'aliments, de textures, on ne veut pas, on n'aime pas. Enfin voilà, ça peut être aussi par rapport au toucher, mais en tout cas, Alice, c'est vraiment tout ce qui est apporté de la bouche. D'ailleurs, on retravaille dessus là récemment parce qu'elle doit porter potentiellement un appareil dentaire. L'orthodontiste, lui a dit « il faut que tu me fasses confiance ». Il faut que tu acceptes que je te touche la bouche. J'ai trouvé ça juste exceptionnel. Je sais plus, un jour, j'avais écouté un de tes podcasts où quelqu'un disait si tous les médecins pouvaient avoir des approches comme ça. Et ben, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, on va retourner voir l'orthophoniste pour qu'elle accepte de mettre des trucs dans la bouche qui sont un peu des textures qu'elle aime pas, en fait. Et on a retravaillé là-dessus par rapport aux légumes, voilà, où elle a dit que ça l'a dégoûté, en fait, le mot dégoût. Alors qu'elle ne connaissait pas les goûts des aliments. Donc voilà, c'est ça l'oralité. En tout cas, pour elle, c'est vraiment tout ce qui a rapport à la bouche.
Et en fait, c'était un trouble. Quoi. C'est pas elle, c'était pas un caprice.
Exactement.
C'était pas elle qui essayait de vous embêter. C'était vraiment une question de... Ben, en fait, elle fonctionne de cette façon-là. Ouais. Et c'est un trouble qui... je sais pas, je pense pas qu'il y ait une raison. Il y a juste des enfants qui naissent avec et d'autres pas.
Aujourd'hui, j'ai un peu... personnellement, et finalement, j'en ai parlé aux médecins qui disent que ça peut être ça. Donc... en fait, elle est née avec un double cordon autour du cou. Voilà. Après, elle a fait beaucoup de RGO, mais à l'époque, on parlait même pas de ce mot-là. Elle faisait des régurgitations, mais elle pleurait tout le temps. Elle avait vraiment mal. C'était quand même très complexe. Et du coup, je pense que tout ça, mis bout à bout, fait que, ben, en effet, il y a ça. Et les RGO, très certainement.
Et pour elle, c'est difficile de s'alimenter parce que l'alimentation est synonyme de douleur.
Je pense clairement. Ouais. C'est clairement. Et vu qu'on n'en avait pas conscience avant. Et c'est pour ça que c'est vraiment des choses que je veux mettre en lumière aussi chez Comapi, tu vois, ce genre de choses-là où les gens savent pas.
Ouais.
Et même des fois, les médecins vont pas forcément aller sur cette voie-là, parce que mon médecin, il m'a dit, bah oui, c'est vrai que là, quand vous me dites ça, ouais, ça peut être complètement lié, quoi.
Mais tu vois, c'est pour ça, Chélie, c'est intéressant de parler aussi des erreurs et de ce que t'en apprends.
Bien sûr.
Parce que, tu n'as pas consciemment fait du mal à ton enfant, tu savais pas.
Oui,
et surtout, toi, tu as été élevé comme ça. Potentiellement, en fait, alors on ne sait pas, mais c'est peut-être un truc qui t'est arrivé aussi.
Ouais.
Ou peut-être que, tu vois, il y a plein de... Le rapport au corps, le rapport à l'alimentation, c'est un vrai délire, hein, surtout quand t'es une femme. Et ça peut trigger et ça peut challenger énormément quand on devient parent. Donc je peux comprendre que quand ton enfant mange pas, ça te stresse, surtout quand tu as eu un rapport à l'alimentation dans ton éducation où en fait t'étais obligé de finir ton assiette ou ceci. En fait, ce genre de comportement aujourd'hui on le sait. Alors il y a 30 ans on le savait pas.
Non,
il y a 40 ans on le savait pas non plus. Donc en fait, blâmer nos parents aujourd'hui ça n'aurait pas de sens
tout.
parce qu'en fait, juste on ne savait pas.
Exactement.
Mais aujourd'hui on sait. Qu'on ne doit pas forcer quelqu'un à manger s'il n'a pas faim. On ne doit pas le forcer à finir son assiette, même s'il veut un dessert. Enfin, il y a vraiment des choses... Parce que sinon, ça crée un rapport à l'alimentation qui n'est pas sain.
Non.
Mais aujourd'hui, on le sait. Avant, on ne le savait pas.
Là, j'en ai reparlé avec ma maman et ouais. elle m'en avait dit, elle dit, bah, c'est vrai que je savais pas. Et elle dit, maintenant, on m'a appris que il faut connaître sa satiété. Personnellement, je ne connais pas ma satiété. Si j'ai une grosse assiette devant moi, je parle avec quelqu'un, je vais finir mon assiette. Quitte à en être vraiment pas bien après. C'est très rare. Et vu que je mange assez vite et si je parle en même temps. voilà. Non, mais il y a un vrai sujet quand même.
Ouais. Ah, bah oui, mais parce qu'on n'a pas une éducation à l'alimentation qui est forcément saine. Et oui, non, enfin, c'est. T'as tellement été appris à ça qu'on ne s'écoute pas. Ouais. Alors que les enfants, si, enfin, automatiquement, s'écoute. Naissent comme ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne va pas finir son biberon, soit c'est parce qu'il y a une douleur, un RGO, comme tu disais, mais juste s'il a plus faim, il a plus faim. Et les enfants savent. Et les enfants sont. D'instinct, ils connaissent leur satiété. Mais en fait, c'est avec l'éducation et le fait de forcer à manger qu'on va justement transformer ça. Mm. Et que du coup, on va les éduquer à ne plus s'écouter. Mais pour, bah, plein, ça... pour plein de sujets. Hein.
Mon Dieu, ce que j'allais dire. Le pleure pas, c'est bon, t'as pas mal. Ouais. Oh, mon Dieu.
Mm. Mais pour tout, pour beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, nos générations apprennent à plus écouter les enfants, ce qui peut trigger un petit peu les anciennes générations. Parce que c'est comme une remise en question de l'ordre établi. Mais en même temps, il faut aussi leur rappeler qu'eux aussi ont remis en question l'ordre établi. Ils n'ont pas fait exactement ce que leurs parents ont fait. Parce qu'ils avaient plus de choses, moins de choses que nous, mais plus de choses que leurs parents. Et c'est comme ça qu'on évolue aussi. Et c'est l'évolution humaine ne fonctionne que comme ça.
Tellement.
Et toutes les générations m'ont dit, mais ils sont cons ces jeunes, tu vois. Toutes les générations m'ont dit. Et aujourd'hui, on se retrouve à dire ça, nous aussi, à dire, putain, pourquoi je dis ça? Et juste, c'est parce que c'est un écart générationnel et que c'est normal.
Exact.
Tu vois.
Tout à fait d'accord.
Donc, parce que c'est marrant, hein, parce que tu me parles de ta maternité, mais il faut aller creuser un petit peu pour aller trouver les mots RGO, les mots troubles de l'oralité et tout ça. Comment tu le vis, toi, ça, en tant que maman et en tant que personne?
Quels est des troubles de l'oralité?
Bah ouais.
Bah, et c'est vrai que ça aussi, je me suis rendu compte que moi, ça me dérangeait parce que aussi, j'adore manger. Et du coup, je disais, non mais moi, j'adore la bonne bouffe, tu vois, je trouve ça toujours très convivial, etc. Et que du coup, mais aujourd'hui encore, avec les trois là, ben, c'est un truc de dingue parce que nos repas, c'est souvent le chaos. Alors je sais pas si c'est chez tout le monde comme ça. Il y a quand même beaucoup de gens, je pense, en ayant discuté avec les copines, mais vraiment, je leur dis, je sais pas pourquoi il y a ça. Mais nous, on doit avoir des attentes inconscientes sur les repas. Et du coup, tout de suite, tout le monde s'énerve. Enfin, c'est assez fou, quoi. Ouais.
Chez moi, c'est pas le chaos. Bah, et c'est pas pour crâner. Attention.
Non, non, non. Hein.
Chez moi, c'est pas le chaos parce qu'on a un total lâcher prise sur le sujet. Ouais. Dire qu'il y a des jours, elle va manger trois assiettes et ça sera OK. Des jours, elle va pas toucher son assiette et ça sera OK. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à travailler sur le petit déjeuner parce que des fois, le matin, elle a pas faim. Elle a laissé partir à l'école sans qu'elle ait mangé. Moi, ça me trigger un peu. Mais en même temps, elle a pas faim. Tu vois?
Ouais.
Et ça demande, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail quand même d'en arriver là, quand, selon les éducations à l'alimentation qu'on a pu recevoir. Mais chez moi, c'est jamais le chaos.
Ouais.
Parce qu'en fait, on a zéro attente.
Je pense qu'on n'a plus d'attente de nourriture. Parce que pareil, hein, maintenant, mon petit dernier, tu manges pas, ok, mais tu restes à table. Ça, c'est notre volonté de convivialité, tu vois. Mais c'est ok qu'il mange pas. Enfin, voilà, vraiment, il y a lâcher prise là-dessus. C'est plus cette convivialité. Et que bah ils se chamaillent après c'est des enfants tu vois mais le jour de la rentrée par exemple c'était un sacré chaos vraiment.
Mais question, pourquoi c'est important que tes enfants ils restent à table même s'ils ont fini de manger?
Très bonne question, je mets un joker, j'en sais rien.
Non parce que vraiment c'est un truc, je sais plus où j'étais il y a pas longtemps et c'était une des règles et nous c'est pas une de nos règles et en fait je crois que j'y ai jamais pensé, c'est-à-dire que si mais vraiment j'avais jamais conscientisé ça, c'est-à-dire que nous si elle a fini de manger elle peut sortir de table mais même elle le demande pas et c'est ok, mais parce qu'en fait moi je sors de table régulièrement par exemple, enfin j'ai des problèmes avec les bruits de bouche donc c'est compliqué pour moi de, enfin quand je mange je les entends pas donc ça va. Mais si, par exemple, moi, je prends rarement un dessert et si eux prennent un dessert, en fait, j'entends tout et donc je m'en vais.
Ah ouais.
Et je prends pas le dessert avec eux. Et au début, j'avais l'impression de les trahir ou de les abandonner, tout ça. Et en fait, juste, je m'écoute parce qu'en fait, c'est insupportable pour moi. Et plutôt que de leur mettre ça sur le dos et de les stresser, juste, je m'en vais. Donc en fait, le fait de sortir de table, c'est pas un sujet pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, Alice, même la mienne pour le coup, si elle a fini de manger, bah, elle va faire sa vie. Et nous, on reste à table. Et puis, en fait, c'est cool de nous faire un moment tous les deux. Et on est bien, tu vois. Mais pourquoi c'est si important que ça? dans beaucoup de familles françaises.
Oui, c'est dû à l'éducation, je pense aussi. Ouais.
De rester à table même quand on a fini.
Et par contre, on n'est pas. Alors, quand ils ont fini, tu vois, ils peuvent, ils débarrassent. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on a instauré pour le coup,
ouais.
Que chacun débarrasse son assiette. Mais nous, si on n'a pas vraiment fini, c'est bon. Mais c'est vrai qu'on a envie. Je pense que c'est plus de la part de la convivialité, tu vois, d'avoir un moment tous les cinq.
Ouais.
Mais c'était une bonne question, je vais creuser.
Non, parce qu'il y a plein de moments de convivialité, tu vois. Moi, par exemple, mon mec me dit beaucoup autour de l'alimentation. Moi, j'adore papoter à table. Enfin, genre, mais je parle tout le temps, donc forcément. Mais, voilà. Et ma fille parle tout le temps aussi. J'adore papoter à table et mon mec, il a du mal avec ça parce qu'il dit, mais en fait, regarde, elle mâche pas bien ou elle avale pas bien ou elle va... Et je suis à, mais oui, mais c'est le seul moment où on peut vraiment parler. C'est trop bien. Et en fait, vraiment, on a des mini-conflits avec ça, de dire, tu vois, chacun son truc. Hein, ouais. Vraiment, moi, le truc à table, je m'en fous, mais alors, sortir de table, je m'en fous, mais autre chose, oui. Et de dire, mais en fait, pour moi, c'est important d'échanger à ce moment-là, parce que je suis persuadée, et c'est sans doute que moi, ou il y a peut-être d'autres gens, mais c'est pas une vérité universelle, hein, que ben, les moments d'échange à table, c'est quelque chose de chouette. C'est là où tu crées du lien.
Ouais, c'est ça.
C'est là où, ben, voilà, y a, on se raconte nos journées, tout ça, et c'est un moment où on est ensemble. Mais,
c'est ça. Bah,
donc,
moi,
du
c'est
coup,
pareil,
moi, je parle à ce moment-là et tout. Donc, et il me dit, mais laisse-la manger. Mais en fait, elle parle tout le temps aussi. Donc, en fait, en soi... Il n'y a pas besoin de lui poser de questions pour qu'elle parle. Mais et vraiment, c'est ça qui nous trigger. Pourquoi ? Moi, j'ai été de réfléchir pourquoi. Ah ouais. Parce que comme on se dispute beaucoup, je me dis qu'il y a un truc. C'est pas inné, c'est voilà. Donc, il y a un truc. Pourquoi ? Parce qu'un jour, j'ai lu dans le livre de Michelle ou de Barack Obama, un des deux, je ne sais plus, que le moment du repas le soir, c'est le moment où ils échangeaient et que c'était le moment où, en fait, ben, vraiment, il y avait un truc qui se passait. Et c'était leur meilleur souvenir. Et moi, j'avais envie, et j'ai toujours envie, bah. Que ce soit les meilleurs souvenirs de ma fille, en fait. Et j'ai envie que ce soit mes meilleurs souvenirs. Est-ce que j'ai raison ? J'en sais rien. Peut-être pas. Hein. Peut-être qu'en vrai, on devrait tous manger en silence pour mieux digérer, pour pas avoir mal au ventre et pas être ballonné. Probablement. Mais aujourd'hui, moi, ce qui compte, c'est pas tellement qu'on soit ballonné ou pas, c'est avoir ces bons souvenirs.
Bah, tu vois, moi, c'est ça. Et finalement, eux, ils sont pas forcément conditionnés à vouloir parler de leur journée. Non. Parce qu'en plus, tu leur dis, par contre, tu parles, enfin, ouais. Tu manges, donc oui. Voilà. Tu vois, il y a cette ambivalence.
Oh là là. C'est adulte.
Et oui, c'est vraiment. Mais je suis d'accord, c'est ce moment d'échange. Mais sauf que ben, si t'as pas envie de parler, tu parles pas.
Ben non.
Mais nous, on a un autre moment où on passe un truc sympa.
Ah ouais.
D'ailleurs, on est quel jour aujourd'hui ?
On est vendredi.
Et le vendredi soir, chez nous, c'est. Normalement, on sort pas le vendredi soir pour avoir ce moment apéro avec nos enfants.
Ah.
Où on rigole en disant on a un bâton de parole et tout le monde doit écouter la personne qui parle. Ce qui est quand même. Assez complexe quand on est cinq.
Ouais.
Mais voilà, pour avoir le total, et puis on dit soit un truc cool dans notre journée, soit qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, ou, voilà, et on discute vraiment. Et ça, c'est un moment d'échange qu'on. Des fois, les copines, elles disent allez, lâchez, viens, le vendredi soir. Non, non, non. Ouais,
c'est important un pour, pour votre équilibre familial.
Ouais,
mais c'est trop chouette, ouais. Tu vois, de mettre ce genre de choses en
cool.
place et d'avoir. Mais en même temps, ce que ça dit, ce qu'on dit, c'est que, ben, en fait, les conventions sociales et tout ce qu'on nous a inculqué, en vrai, on s'en fiche un peu. C'est à nous de créer nos règles, en fait.
Ouais, tout à fait.
Tu vois, toi, tu crées tes règles du vendredi soir. moi, c'est la papote de à peu près tout le temps. Est-ce que je réfléchis si on a un temps de discussion? Mais en fait, c'est à peu près du lever au coucher. Donc oui, on en a. Mais enfin, tu vois, de lâcher prise sur certaines choses. Et peut-être qu'en fait, si ça, il y a un élément de blocage, et c'est peut-être que ça fonctionne pas pour tout le monde.
Exactement. Ça,
et ça peut être intéressant d'aller voir justement quels sont les ajustements qu'on peut avoir. Si peut-être le repas, le moment du repas est en chaos, d'essayer de comprendre pourquoi.
Mmh.
Peut-être que chacun n'a pas tous le même fonctionnement. Peut-être que il y a des enfants qui vont bouger plus et pour qui. Être à table, c'est compliqué. Non, mais c'est
mais
vrai.
Mais je souris
vois.
Parce que mon Adèle, elle ne sait pas rester à
voilà.
table.
Mais parce que c'est compliqué, mais c'est
bien
compliqué
sûr.
Physiquement. C'est impossible, en fait. Et de comprendre qu'ils ne font pas exprès pour nous embêter. Ouais. C'est juste qu'il y a des fonctionnements. Enfin, on ne fonctionne pas tous de la même façon.
Exactement.
Et, donc,
et des fois, il y a des intolérances. Même nous, en tant que parents, on est intolérants.
Ah non, mais
des
complètement.
Fois.
Mais bien sûr, attends. Et on fait tous des erreurs. Hein.
Ouais. Mais bon. Non, mais Adèle, du coup, on lui dit. À un moment, on avait acheté un petit siège, comment on appelle ça, un petit truc de yoga, enfin, pas de yoga, de pilates, de préemption, un coussin de préemption. Donc ça fonctionnait un temps, parce qu'elle avait tellement envie de bouger tout le temps. À un moment, des fois, on lui dit, tu peux être debout, parce qu'on a dans la cuisine, on a un grand plan de travail, mais par contre, tu manges au-dessus de la table.
Ouais. Oui, pour ne pas en foutre partout. Il y a voilà, un moment, on est
dans l'idée. Bon, on a un super aspirateur parce que mais franchement, avec un, voilà, chiant. On a un chien aussi qui fait aspirateur. Nous, on est total cliché. Hein. On a le labrador.
Écoute, mais si vous êtes heureux dans le cliché,
oh,
pourquoi
pas ? Oui, c'est
pas
très bien.
Bah, voilà, en fait, en vrai, on s'en fiche, enfin, tu vois. Mais c'est marrant, ce besoin de se justifier, tu vois, genre, oh, on est dans le cliché, oh, on est ceci, oh, on est cela. Bah, en fait, on s'en fout, t'es heureuse, bah, cool.
Bah, ouais, carrément.
Tu vois. Bon. Parce qu'on a passé beaucoup de temps sur les repas. Tiens, mais ça peut être assez intéressant. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant.
Ça me questionne, du coup, c'est voilà, bien.
Écoute, je pose des graines, moi. Donc, on en était à... vous avez une première fille. À quel moment vous décidez d'avoir un deuxième enfant ? Est-ce que chez toi, ça vient vite ?
Ouais.
Ouais.
Parce que pareil, dans le schéma familial, on est trois, du coup, comme je disais. Et on a 2 ans d'écart chacun. Mmh. Et moi, je trouvais ça cool.
Ouais.
Et du coup, rapidement, en fait, ça vient hyper naturellement aussi. Sauf qu'on a une première qui émotionnellement, je pense qu'elle n'est pas forcément prête pour être sœur, ou en tout cas,
ouais,
c'était costaud. Donc, ouais, on a rigolé en disant, il y a des copains qui ont dit, et vous en avez fait une deuxième. Vous êtes fort. Mais qui n'est pas du tout pareil, bien entendu. Et non, ça se fait naturellement. Et elles ont ouais, 2 ans, un tout petit peu plus de 2 ans et 3 mois d'écart, tu vois.
Et ça se passe comment alors ? Parce que tu dis ta première, elle n'était pas prête à être sœur, ça veut dire quoi ?
Je ne sais pas si elle n'était pas prête à être sœur, mais il y avait émotionnellement, elle faisait des... Alors à l'époque, on disait des caprices, enfin pas nous, mais en tout cas, je te disais la fameuse pression sociale.
Ouais.
On nous a dit, il faut la laisser pleurer et tout. Donc nous, on a tout entendu, on a tout essayé, bien entendu.
Ouais.
La laisser pleurer, par exemple. Ben, on a, en tout cas, nous deux, au moins une fois ou pendant 2 heures,
ah oui,
à hurler comme si tu l'égorgeais, sauf qu'elle était derrière la porte. Autant te dire que ça te marque, vraiment, ouais. Vraiment, vraiment. Donc non, maintenant, avec Simon, tu vois, par exemple, parce que c'est lui qui est le plus petit, tu vois, bah, il pleure, ok, il y a quoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe ?
T'as appris.
C'est fou. Mmh. Ouais, ouais. Malheureusement, désolé Alice pour le coup, mais voilà, on apprend clairement.
Et mais il faut remettre vraiment les choses dans leur contexte. Il y a 10 ans,
on en parlait pas,
c'est pas la même chose.
Pas du tout.
Donc, t'as fait mieux que t'as pu au moment où t'avais les informations.
Enfin, exactement, voilà. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que justement, dans le cheminement, tu vois, c'est ça. Et du coup, plus écouter, bah voilà, s'il y a des pleurs, qu'est-ce qui se passe derrière, en fait ? Et ça, c'est un besoin, il y a un truc qui va pas. Enfin, voilà. Et donc, Alice, ouais, émotionnellement, c'était des grosses crises de colère. Donc, on a été voir une psychologue très vite. Parce qu'en en fait, on lui disait que si elle s'habillait pas, par exemple, ça aussi, on apprend, qu'elle allait aller en pyjama à l'école. Voilà, donc elle avait dit, ok, alors en fait, si je suis en pyjama, je vais aller à l'école en pyjama, mais si je suis toute nue, ils vont pas m'emmener toute nue à l'école. Donc elle se foutait toute nue, enfin elle se mettait, pardon, toute nue. Et jusqu'au jour où on s'est retrouvés à deux à la forcer à s'habiller. Et autant te dire que ce jour-là, à vie, ça sera gravé. Et on s'est regardé toute la journée, on était hyper mal, on s'est appelé plusieurs fois dans la journée en disant, punaise, toi aussi, bah oui. Et même Julien, ça l'a choqué, alors que c'était pas forcément, enfin, je pensais pas que ça allait le choquer. Et on a dit, bah là, faut faire quelque chose. Il faut qu'on se fasse aider parce qu'elle va passer par la fenêtre un jour. Enfin, tu vois, c'était vraiment, c'était horrible pour le coup, vraiment. Et donc, bah, elle était voir quelqu'un, pareil. Par contre, on n'a pas du tout été, on s'est pas senti coupable. Enfin, tu vois, voilà, c'était hyper OK qu'elle aille se faire aider pour que nous aussi, qu'on comprenne plein de choses.
Bah, c'est vous aider tous les trois.
Tout à fait, non.
C'est pas,
quand, voilà.
Ouais, mais pour apprendre à son fonctionnement.
Exactement.
Et comment vous pouvez vous adapter à son fonctionnement ? Parce que je pense que, peut-être moins maintenant, peut-être parce qu'au dans le début, j'en sais rien, mais qu'avant, en tout cas, on faisait en sorte que les enfants s'adaptent à nous et s'adaptent à des fonctionnements qui n'étaient pas les leurs au lieu de s'adapter à leur fonctionnement. La vérité, très honnêtement, c'est que ça ne marche pas comme ça, en fait.
Mais non.
Ça ne marche pas comme ça. Les enfants ne sont pas des pâtes à modeler qu'on doit modeler à notre image ou à la façon dont on voit, nous... d'où on voit la vie,
voudrait,
nous,
ouais,
en fait. Ben non, sinon, c'est de l'intolérance, en fait.
Ouais.
Et ça marche pas comme ça.
Exactement.
Donc, il faut apprendre. Et c'est dur, hein. C'est dur d'apprendre comment fonctionne ton enfant, parce qu'en fait, souvent, et on en parlait tout à l'heure en off, il nous renvoie quand même beaucoup de nous.
Le fameux effet miroir,
ouais,
oui, tout à fait.
Donc, du coup, quand tu vois des choses, et toi, tu réagis en tant qu'adulte comme potentiellement on a réagi avec toi, ben en fait, non seulement ça fait peut-être un peu de mal à ton enfant, mais ça te fait du mal à toi aussi.
Ah, c'est sûr.
Et quand tu cherches un agissement différent, tu dis, en fait, moi, j'aurais aimé qu'on agisse comme ça avec moi.
Mmh.
Et c'est double peine un peu, c'est un peu double claque,
ouais,
de se prendre ça, dire, ah oui, en fait, ben, on n'a pas agi comme ça avec moi. Pour plein de raisons. Hein.
Ouais,
encore une fois, pareil, on ne blâme personne, mais pour plein de raisons. Et c'est ça, je pense, le plus dur, un petit peu.
Ouais, tout à fait. Ah, ça, c'est... je te rejoins carrément.
Et quand vous avez vu cette psychologue, est-ce que vous avez vite vu des changements ?
Non, on ne s'est pas senti. Pour le coup, elle voyait beaucoup Alice et pas nous.
D'accord.
Parce que moi, j'ai trouvé ça très perturbant. Enfin, en tout cas, ce n'était pas OK pour moi, parce que elle ne faisait pas de retour, tu vois. C'était un peu perturbant, finalement, pour nous. Surtout pour moi, en tout cas. Et du coup, on en a parlé avec sa maîtresse à l'époque, qui nous a dit, allez voir peut-être cette personne-là, elle sera peut-être plus adaptée pour Alice. Et en effet, cette personne-là, comme par hasard, elle a vu, je pense, une fois Alice. Et nous, par contre, plusieurs fois. Pour lâcher des choses, voilà. Parce qu'Alice, elle avait des petits tics. Il fallait toujours faire les plis aux chaussettes. Moi, ça m'exaspérait. Mais après, on a dit, OK, ça va. Enfin, voilà. Elle voulait choisir ses vêtements très, très, très petites, en fait. Et puis, moi, clairement, le contrôle, tout à fait. Tu vois, il y a du dos avec Alice, en fait.
Ah, vous avez appris à devenir parent avec elle.
Tellement, ouais.
Donc après, en fait, c'est pas qu'il y a moins de douce avec les autres, c'est que vous aviez déjà appris des choses.
Ah oui, oui. Ah bah, autant te dire qu'Adèle, elle te fait des associations improbables, ne serait-ce que ce matin notamment. Mais en fait, ça lui correspond tellement. Mmh. Donc je dis, OK,
tu lâches prise.
Et Alice, je l'aurais pas laissé partir comme ça, par exemple. Plus petite, en tout cas. Mais donc, pareil, cette psychologue nous avait dit, lâchez prise, vous pouvez pas être sur tous les combats. Et ça, c'est un truc que je dis à tout le monde. J'adore cette phrase en disant, OK, il y a des trucs qui sont, non négociables. Tu vois, alors Alice, elle tapait pas, mais par exemple, ceux qui tapent, violence, tu vois, la violence notamment.
L'insécurité.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais en vrai, qu'elle plie sa chaussette, qu'elle mette trois fois la même tenue, ou je sais pas quoi, qu'elle mange que des pâtes, on s'en fout. Ouais. Et ça, tout le monde nous a juste dit, mais on s'en fout. Et moi, je voulais absolument qu'elle mange des légumes. Ben non, en fait, c'est pas grave, t'inquiète pas.
Elle mange pas de légumes, elle va aller très bien. Si tu veux, ça peut te rassurer, moi j'ai un cousin, il n'écoute pas le podcast, je pense pas. Non, peut-être que ses frères et sœurs, si, mais bon, c'est grave. J'ai un cousin qui, depuis toujours, ne mange que des frites, des pâtes et des flamiches au maroilles. Et des croque-monsieur aussi, je crois. Et des gaufres. Mais enfin, vraiment, on en est sur un strict, il va bien.
Ouais.
Et à l'époque, je pense qu'on parlait pas de troubles de l'oralité, mais ça y ressemble clairement, parce que c'est vraiment du dégoût.
C'est tous des trucs blancs en plus.
Ouais, c'est que des trucs blancs. Je crois qu'à un moment, quand il était petit, il mangeait la purée de carottes. C'est son frère, je sais pas. En tout cas, ils sont les deux, c'est un peu chelou. Mais je les adore. Hein. Mais en tout cas, ils vont bien, en fait.
Ouais,
et ça fait partie de leur particularité. Et alors, on en rit toujours à chaque fois au repas de famille parce qu'il y a toujours les repas enfants pour eux. À plus de 30 ans. Mais c'est drôle, tu vois.
C'est vrai.
Mais en tout cas, à l'époque, c'était vu comme des caprices, tout ça. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ma tante, pour le coup, elle les a toujours écoutées et elle a toujours eu, c'est comme ça, en fait. Et c'était pas un combat. Par contre, des remarques, mais elle s'en est pris, mais milliards.
Ah bah, moi aussi, je peux te dire.
Je sais pas ce qu'elle répondait, parce que moi j'avais un regard de petite fille, mais je sais pas quel était son rapport à ça, mais elle a reçu des milliards de remarques sur ce sujet-là. Et encore aujourd'hui, en fait.
Oui, bah.
Alors qu'ils sont quand même majeurs, parents, enfin je veux dire, ils ont leur vie quoi.
Ouais,
mais encore aujourd'hui, voilà. Est-ce que ça les empêche, enfin je veux dire, leurs enfants mangent absolument de tout. C'est ça qui est drôle, vois. C'est que leurs enfants mangent de tout et que c'est pas un sujet.
Ouais,
ça n'a rien à voir.
Non, c'est ça.
C'est quelque chose qui se contrôle pas.
C'est clair.
En fait. D'accord, oui. On lâche prise. Et sur les trucs des chaussettes et tout, enfin, parfois, il y a de l'hypersensibilité sensorielle aussi.
Voilà, nous l'avons appris tardivement aussi, ce truc-là.
Mais ça, on le sait aujourd'hui parce que la recherche a avancé.
Les
parce
étiquettes
qu'on,
dans le dos aussi, tu sais.
La neuroscience a évolué. Enfin, il y a plein de choses qui avancent et dont on entend parler et qui aujourd'hui sont légitimées, ce qui n'était pas avant.
Fait. Ah oui, c'est sûr. Là, en tout cas, peut-être parce que je me pense sur le sujet, mais il y a eu énormément de choses qui ont vraiment évolué, où on a vraiment cassé les tabous.
Ouais. Après, et on n'en a pas parlé, mais c'est vrai, ta fille a une neuroatypie.
Tout à fait.
Donc, c'est important. Non, mais c'est important aussi de le signaler, c'est qu'en fait, ces signes-là sont des signes de neuroatypie. Les hypersensibilités sensorielles, troubles de l'oralité, tout ce truc sur les étiquettes, les obsessions. C'est des signes de neuroatypie.
Tu sais, ranger du tout petit au plus grand. Mon grand-père, il trouvait ça génial. Il disait, oh, regarde ce qu'elle a fait. Ça fait rigoler, mais à la fois, voilà.
Ouais, mais c'est de la neuroatypie. Vous avez mis en place un process aussi pour diagnostiquer certaines choses chez votre fille. Tu veux nous en parler un peu ?
Ouais. Bah, justement, j'ai une copine qui est orthophoniste et un jour qui me dit... Mais sinon, tu ne trouves pas qu'Alice, elle fait des phrases hyper construites, si petites ? Bah, nous, c'était notre première, hein. Comme on dit, on était devenus parents. Moi, je compare jamais les enfants. Je trouve toujours, pour le coup, que c'est vraiment... Déjà, je compare pas les adultes, donc je compare encore moins les enfants. Et parce qu'il y en a qui savent marcher, il y en a qui développent le langage, enfin voilà, bon, bref. Moi, elle avait très peu de cheveux et pas de dents. Jusque très tard, c'était drôle. Et ça aussi, je pense que ça a joué dans ses troubles de l'oralité, tu vois. Parce que c'est cette même copine qui m'en a parlé, le jour où elle m'en a parlé, elle m'a dit « Alice, elle avait eu des dents à quel âge ?» À 13 mois. Mmh. Moi, j'en avais rien à faire, tu vois. Ouais. Mais le médecin me dit « Vous inquiétez pas, elle aura des dents. » Je dis « Bon, pff, moi, j'ai pas de référence ciel, donc c'est ok, je m'en fiche, bref. » Et donc, cette copine nous dit ça, ces phrases construites. Mais donc, voilà, je te dis, on se rendait pas compte. Et puis, c'est là où on a dit « C'est vrai qu'émotionnellement, c'est complexe et tout ça. » Donc, cette première psychologue nous le dit pas forcément, mais elle dit « Ouais, elle a un vocabulaire hyper construit. Et ce qui était la petite blague, c'est qu'elle nous dit, elle connaît tous les mots. Tu sais, elle avait mis des dessins, en fait, et elle savait dire tous les mots, sauf faire passer. Et pour la petite histoire, je ne repasse pas. Donc, c'était très, très drôle. Elle n'en avait jamais vu. Donc, c'était très drôle. Et en fait, donc, c'est pas elle qui a mis le mot dessus. Mais donc, c'est aussi notre copine qui l'avait un peu dit, mais franchement, nous, bah non, voilà. Et la deuxième psy qu'on a vue qui a dit, ça vaudrait le coup quand même parce que émotionnellement, c'est du lourd et peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Si vous avez envie de mettre un mot dessus, en tout cas pas pour mettre une étiquette, tu vois, mais pour comprendre, je pense.
Pour comprendre un fonctionnement.
Et ben, ça a été complètement fou. Donc Alice, pour le coup, elle a été, ce que je te disais en off, elle a été testée jeune. Elle était en moyenne section, carrément. Parce qu'il y a un test, normalement le vrai WICS, si je ne dis pas de bêtises sur le mot, c'est 6 ans, parce qu'il faut qu'ils apprennent à lire et à écrire. Mais il y en a un test qui est un petit peu avant, je ne sais plus le nom exact, enfin bref, mais c'est quand même reconnu. Et en vrai, pour le tester, il faudrait le refaire, mais aucun intérêt là-dessus aujourd'hui. Et en fait, le jour où elle a fait ça, j'avais dit à la psychologue qui l'a testée en disant « Alors, elle a un rapport aux autres, elle ne vous connaît pas, donc je veux bien qu'on fasse ça en deux voix. » Elle a dit « Oui, il n'y a pas de souci. » Et le jour où elle a fait sa transmission devant Alice et devant nous, et ben Alice, elle s'est transformée.
Ah ouais ?
Incroyable. Vraiment, genre, elle était quand même hyper introvertie comme enfant, en tout cas si jeune. Et là, d'un coup, genre... Même nos parents ont dit c'est fou, il y a un truc qui a changé et tout, sans qu'ils sachent ça à la base, parce que c'était quelque chose dont on ne parlait pas, parce que il y a aussi le regard des gens en disant.
Mais d'ailleurs, tu n'as toujours pas dit le mot. Hein.
Oui, pardon. À haut potentiel intellectuel et en hypersensibilité aussi. Mais à l'époque, on en parlait déjà moins de ce mot hypersensibilité, mais là, c'est clair et net. Et parce que voilà, un gros sujet autour de la mémoire. Alice, elle se souvenait. Sans savoir lire, elle savait réciter absolument mot pour mot un livre qui était déjà un petit peu costaud. Donc ça nous avait mis aussi la puce à l'oreille, si tu veux. Mais on nous a expliqué que aussi émotionnellement, t'as 3 âges. J'ai beaucoup aimé cette image-là. C'est que les personnes neurotypiques, en tout cas elles, pour le coup, c'est un âge calendaire, entre guillemets, tu vois. Un âge émotionnel et un âge intellectuel. Et en fait, sans cesse, ces enfants, enfin ces personnes-là, jouent tout le temps avec ces 3 âges-là différents. Mmh. Et donc, c'est compliqué, c'est complexe, parce que, ben, ok, t'as beau être plus intelligent, j'aime pas du tout ce mot-là, mais en tout cas,
avoir une
des facilités différentes.
Une facilité intellectuelle
voilà,
différente.
C'est ça, exactement. Oui, parce que, voilà, je prends pas du tout mon enfant. Pour, enfin, voilà,
non, mais en fait,
compris,
mais
ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire.
Et puis, on en parlait en off, hein, mais t'as un côté syndrome de l'imposteur avec ce genre de choses.
C'est ça.
De dire, en fait... la neuroatypie, c'est pas être mieux que les autres, hein, c'est juste être différent. Et au quotidien, c'est pas si facile que ça.
Non, je vous invite dans mon quotidien si vous voulez.
Non, c'est pas si facile et c'est pas juste dire mon enfant est meilleur qu'un autre, c'est juste qu'il a un fonctionnement différent. Et donc, c'est intéressant de le savoir, pas pour lui mettre une étiquette pour une envie ou un axe de supériorité, mais pour une adaptabilité.
Exactement. Et si tu vois, à plusieurs reprises, notamment la première fois qu'elle a été chez un dentiste, je dis à cet homme que je ne connaissais pas, qui n'était pas mon dentiste. Alors, elle n'aime pas trop qu'on lui touche la bouche et tout. Malheureusement, cet homme a dit « Oui, bon, c'est bon. » Bah, autant te dire qu'on n'est jamais pu retourner chez lui et qu'on a été chez mon dentiste, qui est formidable, et qui lui dit « Est-ce que tu veux ou je te fais toucher avec toi tes doigts ?» Enfin, voilà. Et en fait, et pareil avec Adèle, notre deuxième, qui a dû aller à l'hôpital l'année dernière parce qu'elle s'était coincée le doigt dans la porte. C'était sympathique. Et en fait, on arrive aux urgences et le gars, il lui dit « Bon, tu vas voir des éléphants, puis ça va être sympa, tu vas rigoler. » Autant te dire que mon Adèle, du haut de ses 8 ans, elle l'a regardé genre « J'ai pas du tout envie de perdre le contrôle. » Elle lui a juste dit « J'ai pas envie de voir des éléphants, j'ai pas envie de rigoler, genre j'ai hyper mal, alors tu me fais pas rire. » Je lui ai dit « Oui, il faut expliquer les choses, genre dites-lui vraiment ce que vous allez faire, en fait. » Et heureusement, c'est une autre personne, parce qu'en fait, elle a fait une crise de panique, elle a voulu se barrer. Bon, ça aussi, c'est une autre histoire, mais...
Vous allez voir des éléphants, enfin... Un enfant, en plus, il prend les choses telles quelles, genre des éléphants, des vrais éléphants. Genre, il y a la savane qui va débarquer devant chez... Enfin, ça n'a pas de sens de dire ça à un enfant.
Voilà. Bah, après, c'était pas...
Qu'il soit neuroatypique ou pas, d'ailleurs. Non, ça n'a juste pas de sens, hein.
Mais voilà, et elle a regardé, mais vraiment, genre, j'ai pas envie de rire. Et tu sentais qu'elle avait pas envie de perdre le contrôle. Mais il y a aussi un sujet avec Adèle, parce qu'elle a fait une grosse bronchiolite. Donc en fait, elle a eu des tubes dans le nez à un mois de vie. Donc forcément, on lui dit, tu vas être dans un hôpital et tout. J'ai compris ça aussi après. Ouais. Elle a voulu se barrer, en fait, quand le mec lui a dit ça. Mais vraiment, un animal, vraiment.
Ouais.
Et elle a voulu le tenir. Le mec, il a voulu la tenir. J'ai dit, vous la tenez pas du tout. On va aller ailleurs et on va revenir après quand elle sera tranquille. C'était assez fou, ça aussi.
Ouais.
Comme quoi, on va pas dire, mais on se souvient.
Ouais. Ah bah oui, complètement.
Il y a des empreintes émotionnelles assez fortes.
Ah bah bien sûr. Et puis vraiment, enfin, vouloir mettre tous les enfants dans la même case en disant « les enfants fonctionnent comme ça », non, en fait. Neuroatypie ou pas neuroatypie.
Tout à fait. Juste,
tous les enfants sont différents. Et on apprend à être parents de nos enfants.
Oh oui, c'est déjà pas mal.
Mais non, mais en fait, tu vois, il n'y a pas de règle en parentalité. Enfin, il n'y a pas de « tous les parents doivent agir comme ça avec leurs enfants » parce qu'en fait, il y a autant de parents qu'autant d'enfants, en fait. On est les parents de nos enfants.
Exactement.
Et c'est pour ça que quand t'as un autre enfant... Après, j'ai pas d'autres enfants, mais j'ai des chats.
Bon, ça peut faire.
Ça peut faire. Mais quand t'as un autre enfant, tu dois réapprendre à être parent.
Oh oui.
Parce qu'en fait, t'es mieux placé que moi pour en parler. C'est que tu deviens parent d'un autre enfant. Alors certes, il y a déjà des choses que t'as apprises, parce que c'est moins nouveau, c'est pas... Voilà. Mais tu deviens parent d'un autre enfant.
Et qui souvent absolument pas la même personnalité.
Mais parce que t'es pas la même personne que ton voisin ou que même ton frère ou ta sœur, en fait. Enfin, toi,
tout à fait.
C'est pareil.
C'est assez fou d'ailleurs. Des fois, tu te dis, ah oh, punaise, ça marche avec elle et là, ça marche pas. Ah bah non, tellement. Ah oui, je valide totalement ça.
Mais en même temps, ça a des côtés positifs dans le sens où vous avez appris tellement avec votre première. Vous avez fait des erreurs et des choses que vous voulez pas reproduire qu'en fait, avec vos deux suivants, peut-être qu'à certains niveaux, c'était plus fluide. Vous avez appris.
Certains.
Donc c'est carrément aussi positif.
Ah oui, des fois je me dis, je sais pas si c'est Simon, on dit ça à un enfant facile par exemple, tu vois, un peu le cliché. Alors on dit beaucoup le mot de cliché aujourd'hui, je trouve. Et en fait, c'est assez drôle parce que je sais pas si c'est parce que c'est un garçon, parce que j'en ai pas eu avant, est-ce que c'est parce que c'est un troisième, ou est-ce qu'en effet c'est parce qu'on a tellement appris aussi, et puis voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi depuis pas mal d'années aussi, donc il y a des choses où tu te dis ça c'est un effet miroir, blablabla, mais j'ai l'impression que c'est vachement plus fluide. Alors bien sûr il fait tout comme les autres enfants, bon lui il tape par contre, lui je connaissais pas ça, tu vois.
Tu vois, il est pas pareil.
Non, pas du tout, et du coup on s'adapte, tu vois, lui il va les bouder par exemple, il va aller se cacher pour bouder, c'est assez drôle, alors. Enfin drôle, mais du coup on va le prendre en considération, on va aller chercher, ou est-ce que tu veux rester tout seul, enfin voilà, mais on lui dit pas allez c'est bon, c'est pas grave, bah non, parce que ce moment-là il a été vexé, et c'était grave à son échelle d'enfant en fait, mais donc ouais c'est hyper enrichissant, enfin moi je suis fan d'avoir trois enfants pour ça aussi, tu vois.
Bah oui, mais parce que t'apprends au fil du temps, et puis enfin les choix que tu fais est-ce que les choix qu'on fait avec un premier enfant au tout début sont vraiment des choix, tu vois, est-ce que au début on fait avec ce qu'on a reçu, ou alors on essaye de travailler différemment, mais enfin et parfois ça fait une grosse confusion et tu te retrouves à perdre complètement pied parce que c'est pas ton enfant, c'est pas ce qu'il faut faire, parce que on t'apprend à respecter des règles qui s'appliquent pas à ton enfant.
Exactement, et le fameux, moi j'adore dire ça aux gens, aux futures mamans, souvent je dis j'ai rien à te dire, juste écoute-toi. C'est perturbant, et un médecin nous l'avait dit, notre tout premier médecin qui était du vieux de la vieille en plus pour le coup, pour la nourriture, tu sais, moi, encore la nourriture, je voulais faire bien, j'avais fait tout, maison, machin, et il me dit, mais madame Robert, écoutez-vous. Bah, je sais pas, mais en fait c'est ça.
Mais quand t'as pas appris à t'écouter toi, c'est compliqué en même temps, de
c'est
devenir
un sujet,
parent.
Ça aussi.
Bah non, mais tout est un sujet, Charlotte.
Pourquoi j'ai ouvert cette maison, hein? C'est pas particulier.
Non mais alors on y vient, hein, parce que je t'ai dit qu'on en parlerait pas, mais on va en parler quand même, parce que voilà, on y vient, parce
ça
que
explique.
Je pense qu'absolument tout est lié. Mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, tu vois.
C'est la
et puis tu vois, de voir aussi comment tu parles au début de l'émission de podcast, à ce qu'on aborde aujourd'hui et comment il faut aller creuser pour entendre tout ça, et je pense que c'est hyper intéressant. Mais du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais.
Tu voulais qu'on parle de Comapi?
Non, avant. Je sais plus. Tu vois, si je pouvais réécouter, ça irait bien, mais bon, c'est pas grave.
On apprend, j'ai dit que on...
oui, apprendre à se connaître.
Voilà.
C'est ça. En fait, on se connaît pas. En fait, on n'a pas appris à se connaître. Nos générations n'ont pas appris à se connaître. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour nos générations. Les générations précédentes, en fait, elles ne se connaissaient pas, mais elles n'avaient pas le même niveau de conscience, parce que la vie n'était pas la même, la réalité n'était pas la même et l'avancée n'était pas la même non plus. Et donc, il n'y avait pas ce questionnement-là pour soi-même et donc pour nos enfants. Exactement. Aujourd'hui, on est dans un environnement où déjà, on a de l'information à peu près tout en 3 secondes 30. Mm-hmm. Je veux dire, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on consomme, ça te fait te remettre en question en permanence. Là, on est en train de faire un podcast qui peut-être va faire exploser le cerveau de certaines personnes parce qu'ils vont dire « Oh mon Dieu !» Mais tu vois, mais tout ça, avant, ça n'existait pas. Non, mais ça n'existait pas. On n'avait pas accès à ça. On avait accès à ce que ta sœur, ta cousine vont te dire, mais c'est tout, en fait.
Exactement.
Donc, c'est pas du tout les mêmes réalités. Et c'est pour ça que c'est hyper dur pour nos générations d'avoir accès à toutes ces informations. Mais donc, du coup, d'avoir d'être vraiment comme une grosse dissonance entre ce qu'on a reçu et de se dire, mais en fait, moi, maintenant, j'ai des enfants, je fais quoi? Après, ouais. Je fais quoi entre ce que j'ai reçu et toutes ces informations? Tu m'étonnes qu'on vrille, en fait.
Bah, faut s'écouter.
Bah ouais, mais alors, attends.
Mais ça revient.
Faut aller voir un psy, hein, parce que pour apprendre à s'écouter, faut déjà tout lui balancer. Hein. Et après, on peut apprendre à s'écouter, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, quand même.
C'est certain.
Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Mais en tout cas, ce que j'entends dans ton discours, c'est que voilà, enfin, vous avez appris à vous écouter, tout ça, avec votre première, et puis avec, il y a d'autres problématiques avec les autres enfants, hein, mais que c'est devenu beaucoup plus fluide au fil du temps, ouais. Tu vois.
Puis tu vois, on parlait tout au début du fait que les copines, elles étaient avec des enfants au même âge, du coup, enfin, elles ont leurs aînés au même âge que mon aîné, et si tu veux, c'est pour ça que du coup, des fois, certaines problématiques. Je raconte souvent l'histoire, quand je raconte la genèse de Comme Happy, où Alice, l'année dernière, me dit, à 9 ans, me dit, enfin, elle allait avoir 10 ans, me dit, c'est quoi les règles? Et où je suis restée bloquée, je savais pas comment lui dire, etc. Tu vois, et je disais, bah, en fait, j'ai pas de référence, parce que moi, on m'en avait pas forcément parlé. Ça aussi, j'en ai reparlé avec maman en disant, bah, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé ensemble, juste, bon, bah, ça y est, j'ai mes règles, ok, tu veux en parler? Non, c'est bon, voilà. Et elle voulait savoir, alors qu'elle les avait pas, elle voulait comprendre. Et moi, j'étais là, oh, faut pas que ça soit un tabou, mais en fait, je sais pas comment te le dire, je suis pas à l'aise avec ça. Et donc finalement, on en a reparlé, on a fait un atelier là-dessus qui était exceptionnel. Mais qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Attends, pourquoi on a rebondi là-dessus?
La genèse de Comme Happy,
ouais. Enfin voilà, c'était le partage en fait, entre personnes ayant déjà vécu ça. En disant, bah, et toi, comment t'as fait? J'ai une copine qui a une fille plus grande, et du coup, tout de suite, je l'ai appelée, j'ai dit, comment t'as fait avec elle? Let's go. Qu'est-ce que tu lui as dit, tout ça? Puis voilà, elle m'a expliqué ce qu'elle lui avait dit, puis après, moi, j'en ai fait ce que je voulais, mais tu vois. Mais je me sentais pas très à l'aise là-dedans. Mmh. Et on m'a dit aussi ça après, et ça, j'ai trouvé ça génial qu'on peut dire à un enfant, et je le dis ici, je suis pas très à l'aise avec ce sujet, ou bien je sais pas, je vais aller me renseigner. Si tu veux, on se renseigne ensemble, si t'es à l'aise de se renseigner avec ton enfant, mais je te donnerai une réponse. Et bien sûr, donner une réponse, ça, c'est primordial.
Nous, on a fait ça avec la mort.
Ah bah.
C'est un sujet aussi.
C'est un sujet aussi, avec mon Adèle, ça, la mort.
Mais ouais. Pourtant, on n'y était même pas confrontés, tu vois. Genre, il n'y avait pas de décès ou quoi que ce soit autour de nous, mais elle avait 3 ans. Ouais, 3 ans, un truc comme ça. 4 ans, je sais plus.
Bizarre, jeune. Il n'y aurait pas de neurotypique par là-bas.
Un petit peu. Un petit peu léger. Et en fait, elle est venue... Oui, non, on avait regardé La Reine des Neiges.
Ah bah oui, parce que toujours les Disney commencent par des trucs horribles.
Il y a des morts. Et en fait, elle nous demandait, mais ça veut dire quoi être mort du coup? C'était ça, c'est devenu de là. La Reine des Neiges. Et les parents meurent. Voilà,
on vous
ça.
Laissera pas la chanson, on vous fera plaisir.
On peut, hein, oui. Et donc, du coup, elle voulait savoir, ben, ça veut dire quoi, la mort? Et en fait, moi, je me suis retrouvée, mais là, comme un rond de flanc, mais sèche. Enfin, je m'étais même jamais posé la question. Et puis, je me dis, ben, le jour où on sera confronté, ben, on aura l'occasion. Mais elle m'a appris une belle leçon ce jour-là, parce que je me suis retrouvée là, comme ça, à rien pouvoir dire. Et je lui dis, mais écoute, je sais pas comment te l'expliquer. Moi, je sais ce que c'est dans ma tête et j'arrive à le comprendre dans ma tête, mais j'arrive pas à l'expliquer. Mmh. Et en fait, je pense que j'ai besoin de livres pour te l'expliquer. J'adore le support livre, je trouve ça extraordinaire. Et ben, je vais chercher des livres. Et puis une fois que j'aurai trouvé, ben, on pourra en parler.
J'ai eu la même.
Et réponse. Juste, elle me dit, ok. Puis elle est partie faire autre chose.
Bah oui, en fait,
juste, j'avais pas répondu à sa question.
Non, mais...
Je n'avais pas donné de réponse, mais je l'avais prise en considération.
Exactement.
Et j'avais entendu ce qu'elle me disait. Et donc, du coup, qu'est-ce que ces moments-là a donné comme leçon? C'est-à-dire que, ben, en fait, on n'a pas toujours les réponses, mais qu'on peut aller les chercher et se renseigner pour les donner.
Ouais.
Et en fait, je suis allée chercher des livres, je suis allée au fur et voir un petit peu tout ce qui se faisait. J'ai pris des choses correspondait pas mal.
Et avec une Alice aussi.
Oui, ben c'est celui-là. Alors au début, pour expliquer aux auditeurs, aux auditrices, c'est le livre qui s'appelle La mort dans la collection Mes petits pourquoi chez les aux éditions de Milan. Ce livre, on en a parlé avec Céline aussi.
Ouais.
Ce livre, il est très factuel.
Exactement.
Et donc ça peut être un peu choquant.
Aussi. Oui, mais...
Mais selon le rapport que tu as avec la mort au début, enfin moi quand j'ai ouvert la page, c'était le grand-père de Alice qui est mort et moi je suis mon Dieu mon père.
Non, oui, c'est vrai qu'il est assez
parce que la petite fille avait le même prénom et puis tu dis ah ok et donc je l'ai feuilleté et au début je me dis ah je sais pas trop et en fait je l'ai pris et ça a été le meilleur livre. J'en avais pris un peu plus poétique de Agnès Le Digue. Qui est très très beau, qui raconte la mort d'un petit garçon qui a une leucémie, mais un petit peu, enfin c'est romancé, c'est un album, c'est très joli. Je sais plus le titre, mais je vous le partagerai si vous me le demandez sur Instagram, il y a pas de problème. Et en fait, ce livre-là, il raconte une histoire et c'est intéressant. Et puis j'avais envie qu'elle voit que ben tout le monde pouvait mourir, même si c'est un peu horrible. C'est pas que les vieilles personnes.
Mais c'est une réalité.
Et donc j'ai acheté ce livre et puis on l'a lu et en fait juste ça l'a pas choquée parce qu'à 4 ans, elle avait besoin de faits. Oui, elle a besoin de quelque chose de factuel et elle m'a appris vraiment une grande leçon ce jour-là de dire mais en fait. T'as pas toujours la réponse, mais il faut aller la chercher ailleurs. Et y a pas de question tabou,
non.
Tu vois. Pour le coup, moi, les règles, on l'aborde depuis qu'elle est
Vois, moi, mais je pense que moi, j'étais pas à l'aise avec le sujet.
Non, mais et pourtant, j'ai pas été éduquée au sujet plus que. Je suis une fille de ma génération, juste clairement.
Un peu pareil.
Mais je sais pas pourquoi. Enfin, si c'est parce que moi, j'ai commencé à m'éduquer sur le sujet, c'est ça, et à comprendre mes cycles menstruels, moi, déjà moi. Je comprenais pas pourquoi je pétais des câbles avant mes règles, donc Donc je suis allée me renseigner moi, et c'est là que j'ai expliqué, parce que je trouvais que pour l'harmonie familiale, expliquer ce que c'était le SPM et pourquoi maman, elle était devenue un peu tarée une semaine avant ses règles, et d'expliquer en fait ce que c'était. Mais donc pour expliquer ça, il faut expliquer les règles. Et puis tu sais, les enfants, quand ils sont tout petits, ils viennent aux toilettes avec toi.
Oui, alors moi, oui.
Tu vois.
Désolée, mais vu que moi je mettais des tampons, n'est-ce pas, j'avais pas du tout envie qu'ils voient ça.
Bah c'est ça. Je comprends. Mais en même temps, moi je m'étais toujours dit, avec une approche différente, mais après je suis devenue mère 10 ans après toi, enfin presque quasiment, enfin peut-être pas 10 ans en fait.
Ça fait bader ce que tu dis.
Non, pas du tout. Non, je suis devenue mère à un moment où en fait, je pense qu'il y a une génération de mères qui se sont dit ça suffit de plus parler.
Ouais,
et donc du coup, on a pris la parole.
Tout à fait.
C'est surtout ça. C'est juste ça, c'est pas pour donner un coup de vieux, on a presque le même âge.
C'est ça, on a quelques
années. C'est tout. Et de me dire, en fait, j'ai pas envie qu'elle entre dans les toilettes et qu'elle voit du sang partout. Enfin, partout. Ceci dit, je retapisse pas mes toilettes à chaque fois. Hein. Mais qu'elle voit du sang et qu'elle croit un truc grave alors qu'en fait, c'est juste life et que ça va lui arriver. En plus, c'est une petite fille, donc ça va lui arriver.
Bien sûr.
Donc en fait, on a juste expliqué les trucs clairement. Par contre, des fois, on allait chez mon père et tout ça. Je m'en souviens, elle parlait des règles, genre « Ouais, maman, elle a ses règles et tout. Ma chérie, par contre, on en parle ensemble si tu veux, mais j'ai pas forcément envie que tout le monde le sache. » Et ça choquait vachement mon père de dire « Mais pourquoi vous lui parlez de ça ?» Genre, mais pas choqué, mais genre « Pourquoi vous lui parlez de ça, franchement n'importe quoi !» Tout ça pour dire que s'il y a des sujets comme ça avec lesquels on n'est pas à l'aise, mais pour eux c'est juste un fait en fait.
Exactement.
Ils mettent pas tout l'émotionnel et toute la peur et tout le dégoût, tout le tabou que nous on peut mettre.
Ah oui.
C'est ça quoi. Mais donc t'as réussi à expliquer les règles à ta fille du coup.
Alors j'ai acheté des livres justement. Mais moi je suis quelqu'un qui adore les partages dans la vraie vie. Voilà. Donc du coup j'ai voulu savoir et j'ai trouvé un atelier qui était super. On a fait un atelier sur une journée avec elle. Donc elle était avec des petites jeunes et moi aussi on était là, c'était vraiment un truc mère-fille, donc qui expliquait de manière factuelle, c'était chouette alors que tu vois elle avait 10 ans, elle venait juste d'avoir 10 ans, ce que c'était, pourquoi on avait nos règles, etc. Et après il y avait juste un moment que les jeunes filles avec l'animatrice où ils lui montraient justement si vous vouliez des serviettes périodiques, etc. Et en fait je me suis rendu compte du coup que moi j'étais pudique sur le sujet, elle est aussi pudique sur le sujet, mais récemment, je lui en ai reparlé d'ailleurs en lui disant alors, est-ce que tu veux qu'on te mette une petite pochette dans ton sac pour le collège et tout ça ? Elle me dit non, ça va. Et je lui ai dit je vais te mettre au fait les livres qu'on a à la maison, soit dans ta chambre, soit à disposition, parce qu'ils sont dans le salon, mais je pense qu'elle ne sait pas forcément où ils sont. Mais du coup, comme ça, elle pourra feuilleter aussi, parce que je sais qu'elle ne va pas forcément aller m'en parler, mais du coup, je trouve ça cool. Alors, et c'est vrai que le support livre est quand même canon.
T'as des titres à nous recommander ?
Le petit illustré de mon intimité.
Ça, il est génial. On l'a déjà.
Oui, parce qu'en plus, c'est adapté aux âges. Ouais. Et j'en ai un autre qui s'appelle, alors je ne sais plus exactement, sexualité, amour, Je sais plus.
C'est pas une sexologue ou...
Je saurais plus te dire.
Je crois savoir ce que c'est. Amour, sexualité, enfin c'est en, le, ouais, la couverture, elle est blanche.
Blanche avec son nom dans un canapé.
Ouais, ouais, ouais. Ça, bah, on donnera le titre aussi sur Instagram. Si, si on oublie de le mettre quelque part, vous nous le demandez.
Et justement, je refais un petit check pour le livre de la mort aussi, qui avait été chouette, en un peu romancé, un peu imagé d'enfant. On a Au revoir Blaireau, qui est très très chouette aussi. Pas du tout dans un autre esprit justement, mais comme ça, elle avait deux choses aussi. Ouais. C'est bien ça.
Bah ouais, c'est pas mal. Mais tu vois, il y a plein de... Enfin, franchement, aujourd'hui, ils font des supports qui sont très, très chouettes pour les enfants et vraiment très adaptés, tu vois. La collection des petits pourquoi, ils ont tous les sujets. Les plus tabous et imaginables. Il y a le divorce. Je pense à ça parce qu'on a évoqué pas mal de sujets ces derniers temps sur Prenons un café. Il y en a sur le divorce, il y en a sur les frères et sœurs. Il y en a sur...
Confiance en soi.
Et sur l'hypersensibilité, sur le haut potentiel intellectuel, il y en a aussi.
Oui, c'est vrai. J'en avais pris une fois.
Il y a vraiment plein de sujets. Il y a les frères et sœurs pour accueillir quand tu accueilles un frère ou une sœur. Enfin, je sais parce qu'Alice, à chaque fois, quand on lit un truc, elle veut lire tous les titres.
Oui, derrière. Enfin. Ah, moi, ça, je l'ai. Ah, je l'ai déjà lu. Oui,
bah, je sais pas. Du coup, au bout d'un moment, tu les retiens, les trucs. Et il y en a vraiment sur tous les sujets. Ouais. Et ils sont hyper bien faits. Ils sont faits avec des pédiatres. Et vraiment, c'est une collection que je recommande si vous avez un sujet comme ça que vous savez pas, enfin, qui est difficile pour vous à aborder. Ben, il y a ces supports-là qui sont très chouettes. On les trouve facilement en librairie. Vous pouvez les commander aussi. Enfin, franchement, ils sont très accessibles et c'est aux éditions Milan. Voilà, cet épisode n'est pas sponsorisé par les éditions Milan, mais en tout cas, c'est super.
T'aurais pas travaillé dans les livres, toi, par exemple ?
Alors, si. Non, mais bah, tu vois, mais oui, bah, c'est sûr que. Mais je pense pas que ce soit ma formation qui me. Peut-être que si, peut-être que ma formation en littérature de jeunesse aide à ça. Mais la littérature de jeunesse, c'est extraordinaire. En fait, c'est pour faire le lien entre nos cerveaux d'adultes et leurs cerveaux d'enfants.
J'ai une anecdote encore là-dessus.
Vas-y.
Pas plus tard qu'hier soir, mon Adèle me dit, elle lisait un manga. Bon, moi, c'est pas du tout mon truc, mais puis je dis, ah, mais c'est quoi ? Et sur la couverture, tu vois, je trouvais que c'était rude et tout ça. Puis je la fais éditer, mais alors je vois des trucs, c'était vraiment, tu vois, des trucs un peu qui pouvaient faire peur quasiment. Puis je dis, ah, oh, c'est quoi ce que tu lis ? Non, mais maman, je vais te lire un peu comme ça, tu vas voir que ça va te déstresser. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais. Et en effet, et elle m'a expliqué l'histoire, elle m'a lu quelques trucs, et tu dis, bah oui, en fait, c'est hyper accessible, c'est totalement son âge, mais j'avais peur qu'elle lise des trucs qui n'étaient pas de son âge, et du coup, qui allaient lui faire, tu vois, peur, ou je sais pas quoi. Et c'était rigolo, son approche, en disant, bah, tu vois, regarde, maman, je vais te... Je dis, ok, t'as bien compris que ça me stressait, en fait.
Mais ouais, mais en même temps, tu vois, enfin, les enfants sont des... miroir encore une fois, et le neurone miroir, enfin c'est vraiment quelque chose, tu vois, si tes enfants te voient lire des livres, ils vont lire plus facilement des livres, par exemple.
J'ai des addicts aux livres.
Bah, alors moi aussi.
Mais moi, je lis moins, mais eux, ils sont vraiment addicts aux livres.
Mais parce que tu leur offres cette possibilité-là aussi. Mais en même temps, tu vois, même dans le comportement, de dire, mais en fait, elle a voulu te rassurer parce que c'est potentiellement le comportement que tu adoptes avec tes enfants quand ils ont des inquiétudes.
Ouais, bien sûr.
Donc en fait, tu leur montres exactement le bon exemple.
Bon, bah, c'est cool.
Ça va.
Ça va, ouf.
On va parler un petit peu de Comapi. Parce que Comapi, c'est pas n'importe quelle maison. C'est une maison qui est dédiée à la parentalité, au bien-être, santé de la femme un petit peu aussi, développement personnel et tout ça. C'est quoi l'histoire de Comapi ? C'est quoi le point de départ ?
C'est mes enfants, clairement. Mais j'ai pas voulu être une maison de la parentalité. Mmh. C'est important pour moi. Tu vois, la baseline de Comapi, c'est votre maison ressource. Déjà le vôtre, parce que je voulais que les gens s'approprient vraiment le lieu. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une maison. Bah là on y est d'ailleurs, mais donc c'est un salon, une salle à manger, enfin voilà. Donc c'est que les gens se l'approprient, se sentent vraiment comme chez eux. Et ressources pour justement avoir plein de ressources, plein d'informations, informer, sensibiliser. Tu vois, c'est vraiment ça, expérimenter aussi beaucoup pour intégrer les notions et offrir plein d'outils. On parlait d'oralité tout à l'heure, bah il y a des choses que les gens vont me dire, ah bon, tiens, c'est quoi ? Ah bah peut-être qu'en effet. Tu vois, moi, j'ai aucune formation de quoi que ce soit, mais justement, je fais appel à des experts qui viennent sur le lieu pour du collectif ou de l'individuel en haut, mais pour donner ce savoir, entre guillemets, tu vois, ces ressources-là. En fait, moi, je suis créatrice de liens entre les sachants, entre guillemets, et ceux qui ont besoin, en fait. Parce que des fois, comme on disait tout à l'heure, on a tellement d'infos qu'on ne sait plus, en fait, où aller. Et moi, j'ai envie que les gens, potentiellement, me fassent confiance parce que je vais aller chercher les bons professionnels.
Ouais.
Voilà, c'est mon
petit truc. Et c'est parce que, aussi, peut-être, tu me dis, là, c'est de l'interprétation, mais tu savais tellement pas avec ta première enfant
tout à fait.
Que, ben, en fait, t'as envie peut-être d'éviter ces galères-là à d'autres personnes aussi.
Totalement, totalement. Et tu vois, c'est tout à fait ça, absolument. Et c'est pas que parentalité, parce que moi, j'ai, dans mon histoire personnelle, justement, j'ai fait un burn-out il y a, je dis 6 ans, mais en fait, maintenant, ça doit faire 7 presque. Donc, qui m'a fait comprendre, prendre conscience, en tout cas, que j'étais un tout. On écoutait, j'ai beaucoup ri quand tu m'as dit plusieurs fois, on savait pas s'écouter. Bah, clairement, c'est ça. Hein. Moi, c'est mon corps qui a lâché un ulcère à 2 endroits de l'estomac, quasiment. On appelle ça une grosse gastrite aiguë, mais bon, c'est quasiment ça. J'ai pas le trou, mais voilà, on y est. Et qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, mon corps et ma tête, c'était pas du tout relié et qu'il fallait que je m'écoute, en fait. Donc, j'ai pas pu faire autrement. Donc, et là, on me dit, c'est le stress. Ok, les gars, on fait comment avec le stress? Et en fait, et c'est pour ça que ici, il y a le développement personnel et le bien-être qui sont vraiment liés aussi à ça. Qu'on n'est pas obligé d'être parent pour venir chez Comapi. Tout à fait. Tu vois, je pense que je vais aussi développer des choses pour les grands-mères aussi. Enfin, tu vois, des instants comme ça. En fait, c'est pour créer du lien. Créer du lien. Peu importe. T'es pas obligé d'être parent. Il y a plein de choses qui vont être ici. On va apprendre l'automassage. On va apprendre plein de choses. Et on va briser les tabous. C'est pour ça que c'est pas étonnant que, voilà, on soit ici ensemble aujourd'hui. On va briser les tabous. On va aller faire sauter tout ce qu'on veut. Enfin, voilà. Le but, c'est qu'il y ait pas de normes, c'est on peut être comme on est, venez comme vous êtes, on dira pas c'est la marque, mais... non mais c'est carrément ça, et dire bah voilà, il y a plein de notamment j'avais fait un événement avant d'avoir comme appui sur le harcèlement, et j'ai plusieurs copines qui m'ont dit oh, bah moi je suis pas concernée, c'est bon. Bon bah malheureusement, si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras, elle m'a dit ça, et quelques mois après, son fils a été harcelé. Et finalement, moi, j'étais dans le souhait d'informer, ça c'est certain, mais de sensibiliser aussi. Et de dire, ok, t'es peut-être pas concerné, mais par contre, peut-être que ton enfant demain, il va peut-être être harceleur, il va peut-être être harcelé.
Ou témoin.
Ou témoin, tout à fait. Et qu'en fait, si toi, t'es au courant et que t'en as parlé avec ton enfant, ou si t'as fait un truc par enfant, parce que ça, de toute façon, on le refera, c'est certain, et ben, peut-être que du coup, ça va peut-être casser un peu des fois les chaînes un peu pourries, quoi.
Bien sûr.
Donc,
puis apprendre aux enfants à reconnaître ces situations.
Exactement.
Même s'ils n'en sont pas victimes et qu'ils n'en sont pas coupables, entre guillemets, de voir une situation comme ça dans la cour et de signaler que ce n'est pas normal.
Exactement.
Ça change tout de suite quelque chose, tu vois.
Ouais, ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, pour revenir à la genèse, bah, donc, c'est les enfants, c'est le partage vraiment, de créer du lien, de partager ensemble, parce que moi, j'ai entendu tellement, bah, on vient de parler d'Alice, tous les soucis qu'on a eus, et moi, j'ai toujours dit ouvertement aux gens qu'on en chiait, quoi, clairement. Et ben, c'est très rigolo parce que souvent c'était ah, toi aussi, ah, ça fait du bien d'entendre ça. Mais alors, le nombre de fois où on me l'a dit, c'était incroyable. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc, quoi. Et en fait, je parlais de cette psy qui avait vu deux fois Alice et surtout nous plusieurs fois. Et quand je lui ai reparlé de ça récemment, parce qu'on est resté en lien, et elle me dit, ah non, mais il y a un vrai sujet. Tu peux, enfin, il y a un vrai besoin des gens de parler en vrai, parce que les réseaux sociaux c'est canon, mais des fois en plus il y a des gens qui idéalisent.
Ouais, il y a de la comparaison
beaucoup.
Quand, bah, sur les réseaux sociaux, tu montres 5 secondes de ta vraie vie, hein.
Voilà,
tu c'est ça. Et souvent les meilleures secondes
voilà,
de la vraie vie.
Faire. Voilà. Et moi aussi d'ailleurs, tu vois, juste typiquement, quand j'ai fait mon burn-out, les gens ils comprenaient pas, parce que moi je suis quelqu'un qui sourit tout le temps. Enfin, c'est mon état de, enfin, c'est pas, je fais pas ma bébête, mais je fais toujours ça. Et j'ai même amené ma mère chez l'avocat pour qu'elle entende mon récit de ce que j'ai vécu, en fait. Ou tout du moins, comment je l'ai senti, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, même moi, je me voilais la face, hein, c'est mon corps qui a parlé, tu vois. Mais, et les gens, des fois, comprennent pas. Et donc, les réseaux sociaux, ben oui, ça montre une partie de la vraie vie. Et forcément, on a quand même plus tendance à vouloir montrer le beau.
Non, moi non. Hein non. Moi non. Mais, voilà. Mais c'est particulier. On m'a déjà dit d'ailleurs une fois, et d'ailleurs, ça m'est perturbé de dire, quand je parlais que du négatif. C'est faux en plus. Je parle pas que du négatif, mais je pense que c'est important d'en parler.
Ouais, c'est important de ça.
C'est important de montrer que, ben, en fait, je pense qu'on est quand même une grosse majorité à avoir des moments pourris. Enfin, genre, tout le monde vit des moments pourris, et de savoir que c'est pareil ailleurs,
ça,
et que t'as pas une meilleure vie parce que t'as 8000 abonnés sur Instagram, ben je trouve que c'est intéressant comme concept. Tu vois.
Carrément d'accord. Tellement. Et donc du coup, voilà, donc revenir à lire des livres, c'est super chouette et tout, mais de dire, il y a des vrais gens en face de moi qui vivent la même chose. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Et dire, il y a des outils pour s'en sortir, ou regarde ça, on parlait des témoignages. Juste dire, bah, il y a quelqu'un qui a vécu ça. Et derrière, bah, c'est ce que toi, tu fais toujours dans des podcasts. Dire, bah, regarde, ils se sont sortis comme ça, ou c'était cette phase d'optimiste. Tu vois, happy, le comme happy, c'est dire, bah, voilà, il y a de la joie, il y a de l'optimisme quand même derrière, en fait. Même
y a
si
pas
on
de
va
fatalité.
Évoquer, on va évoquer des gros sujets, hein. Il y aura le deuil, enfin, voilà, notamment, tu vois, et le deuil dans toutes les sphères qu'on puisse imaginer. ben ça sera pas fun, c'est certain, mais en tout cas, juste dire que ben, le professionnel qui sera là, déjà, il sera encadrant, il sera bienveillant, et bien sûr, ici, c'est 100% bienveillance à fond, non-jugement, etc. C'est des valeurs qui sont très fortes pour moi, forcément. Et voilà, dire ben, derrière, il va y avoir de l'optimisme, vous inquiétez pas, ça va aller.
Ouais.
Voilà.
Ouais, je trouve ça intéressant. Et puis, même si par exemple, là, tu parlais de deuil, non, c'est pas fun, mais c'est la vraie vie de plein de gens.
Exactement, tout à fait.
Et en fait, la vie, c'est pas que du fun. La recherche du bonheur, enfin, ça, enfin, on a fait beaucoup de, tu sais, on parlait beaucoup pendant un moment, la quête du bonheur. La quête du bonheur, ça n'existe pas. Le bonheur, c'est pas un goal, c'est pas un état à atteindre. C'est des petites touches dans la vie au quotidien.
Oh, oui.
Tu peux avoir une journée où, en fait, ça va être ponctué de petits bonheurs. Genre, t'as réussi à vider ton lave-vaisselle avant 10h du matin. Enfin, personnellement, moi, je trouve que c'est un vrai petit bonheur. C'est ça, extraordinaire. Ouais. Mais parce qu'à chacun à nos échelles, on a des objectifs qui sont adaptés à notre fonctionnement. Exactement. Et pas à ce que la société peut attendre de nous. Parce que Instagram pourrait attendre de nous, parce que ce qu'on voit sur Pinterest, tu vois, c'est une société de l'image qui est induite avec les réseaux sociaux, mais qui peut avoir un danger et toujours se reconnecter à soi et dire quelles sont mes priorités, quel est mon fonctionnement. Une fois que j'ai compris mon fonctionnement, comment je peux adapter?
Exactement.
Quelles sont mes limites? Peut-être que mes limites sont plus restreintes que les limites du voisin. Mais c'est sa vie. De toute façon, je peux essayer d'avoir la vie du voisin. Si mon fonctionnement à moi n'est pas comme ça, je n'aurai jamais la vie du voisin. Et je vais être tout le temps malheureuse parce qu'en fait, je n'arriverai jamais à atteindre un objectif qui est juste inatteignable pour moi.
Exactement.
Et on en parlait juste avant. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet sur lequel moi, enfin, je suis très au fait actuellement parce que la neuroatypie est quelque chose qui... j'ai envie de dire, presque est entrée dans ma vie récemment, alors qu'en fait, ça fait juste 34 ans, mais je crois que j'ai ouvert les yeux sur ça, de comprendre. Et en fait, juste pendant 34 ans, j'ai lutté pour avoir la vie du voisin et pour être comme le voisin. Sauf qu'en fait, j'étais constamment en échec parce que c'est pas ma vie à moi et que c'est pas mes limites, que moi, en fait, je peux pas achever autant que le voisin. Mais qu'en fait, ce que je fais déjà à mon échelle, c'est déjà extraordinaire.
C'est clair.
C'est mon extraordinarité à moi. Et qu'aujourd'hui, moi, je sais ça, mais peut-être que demain, vous, ça va être de prendre une douche.
Ouais.
Moi, ça m'arrive aussi que ce soit prendre une douche, un moment extraordinaire, en fait. Et je pense que c'est le cas de tout le monde.
Ouais.
Que même les plus famous ou les plus successful, des gens ont aussi des moments où, en fait, leur goal dans la journée, c'est de prendre une douche.
C'est clair.
Non, mais c'est vrai.
Ça, c'est...
Et en fait, je pense que plus on va en parler, plus on va le dire, plus ça va être ancré et plus ça va lâcher la grappe, en fait. Et arrêtons de nous mettre la pression, quoi.
Ouais, ça, ouais. Et de se comparer.
Et ouais, en tout cas, ouais. C'est ce que j'entends dans toute ton histoire. Et c'est drôle parce que de la façon dont ça a commencé, après, c'est normal. Hein. De la façon dont tu l'as commencé et comment on est entré petit à petit dans... tu sais, creuser un petit peu, d'aller plus loin, comprendre, en fait. Je pense que c'est un vrai gros résumé de la vraie vie, en fait.
Ouais, ça, c'est sûr.
De ce qu'on pensait, de comment c'était, de je vais mettre des barrières et je vais mettre des trucs. Ah, on fait tomber les masques, en fait. Et ouais, aujourd'hui, la vraie vie, c'est ça.
Tellement, tellement.
Et ce qui te donne une mission de vie particulière avec Comme Happy.
C'est ça.
Exactement. Et si on en parle aujourd'hui, parce qu'on parle de témoignages, on parle de nos points communs, mais on va quand même faire un petit peu d'auto-promo, Charlotte.
Ah ouais, alors
soyons fous. Il y a quelque temps, tu m'as contactée parce que tu voulais organiser des événements chez Comme Happy.
C'est ça.
Et ça tombait plutôt bien parce que moi, de mon côté, depuis presque 20, depuis, enfin, c'est même la raison d'être de Prenons un Café, j'ai envie d'exporter ça dans la vraie vie. De permettre cet échange parce que là c'est génial, nous on parle entre nous, ça éveille beaucoup de choses chez les auditeurs et les auditrices, ça leur change beaucoup de choses dans la vie et je le sais. Il y a certains épisodes qui peuvent vraiment agir comme un coup de projecteur sur des choses qu'on ne pouvait pas voir avant et c'est un peu la magie du podcast. Maintenant j'ai envie, moi, et c'est une envie depuis très longtemps, de pouvoir avoir ces coups de projecteur là dans la vraie vie, de pouvoir rencontrer des gens dans la vraie vie, de dire en fait on est pareil, on a des points communs et en fait c'est génial. En fait, j'ai tellement moi vécu grâce à Prenons un Café ce waouh, c'est génial, je viens de rencontrer quelqu'un qui fonctionne
toi
comme
aussi.
Moi.
Et toi aussi.
Enfin, le moi aussi, j'en parlais avec je sais plus qui sur la capsule d'été. Le moi aussi a un gros pouvoir. Bah, c'est le MeToo. Hein. C'est parce que je voulais pas utiliser le MeToo parce que le hashtag oui, MeToo a une signification propre et il est extraordinaire et la force de ce MeToo Enfin, je veux dire, parce que quelqu'un un jour a dit, moi aussi, j'ai été agressée sexuellement, ça a donné la parole à plein de femmes et ça a changé des choses.
Exactement.
Alors, certes, il y a encore plein de progrès à faire sur les violences sexuelles et autres chez les femmes, mais il n'empêche que ça a fait avancer. Et en fait, à nos échelles, le moi aussi, le MeToo, en fait, il a sa place. Moi aussi, en tant que parent, j'ai galéré. Moi aussi, mon cerveau fonctionne différemment. Moi aussi, mon enfant veut pas dormir. Moi aussi, je vais me séparer de mon mec ou de ma meuf. Mmh. Moi aussi, je vis quelque chose. Et en fait, ça a une force qu'on sous-estime beaucoup. Et j'ai envie de, moi, retrouver cette force dans la vraie vie, comme toi.
Voilà. Mmh.
Et donc, tu m'as donné l'opportunité d'animer des prenons l'apéro, parce que c'est en soirée, dans la vraie vie, chez Comme Happy, tous les troisièmes jeudis du mois. Donc le principe de ces prenons l'apéro vont être très similaires à ce que je fais sur Prenons un café, c'est-à-dire qu'il y aura un ou une invitée, voire deux, voire trois, que sais-je, en fonction. On aura un sujet spécifique à traiter avec un témoignage un peu à la Prenons un café, donc avec le même genre d'échange, c'est-à-dire que oui, je vais cuisiner aussi les gens dans la vraie vie, à la différence que ce ne sera pas enregistré. Et ce sera en public, donc avec une douzaine de personnes maximum, les places seront limitées, pour pouvoir échanger et pour pouvoir retrouver ce moi aussi et pour pouvoir poser les questions, parce que je suis quasiment sûre que quand vous écoutez un épisode de podcast, en tout cas moi c'est mon cas, quand j'écoute parfois je suis là, ah mais moi j'ai envie de lui demander ça, et t'es là en train de trépigner en disant purée, l'animatrice, est-ce qu'elle va, elle va poser la question, puis elle la pose pas parce qu'en fait elle est pas vous et qu'elle a pas la même expérience, en tout cas, et elle a pas rebondi de la même façon, et purée qu'est-ce que c'est frustrant. Et je sais que ça m'arrive aussi, parce que je reçois des fois des messages, genre, ah j'aurais aimé que tu demandes ça, j'ai ah bah mince, sorry.
désolé.
Et en fait là, bah, vous pourrez poser les questions. En fait, juste de pouvoir rebondir vous et d'avoir un petit peu ce rôle que moi j'ai aussi, de poser les questions à des invités qui ont vécu les mêmes choses que vous, et pourquoi pas poser les questions à vos pères, en fait, pères PAIRS, qui seront dans la salle, et pourquoi pas rencontrer des personnes qui vivent les mêmes choses que vous et puis vous ouvrir à des belles relations, à des belles amitiés, enfin plein de choses. Et donc l'idée, c'est voilà, de pouvoir créer du lien et pouvoir échanger entre nous. Donc c'est Prenons l'apéro au lieu, je disais, tous les troisièmes jeudis du mois, donc avec un talk d'une heure, une heure et demie. Et après ça, pourquoi ça s'appelle Prenons l'apéro? Parce qu'on prend vraiment l'apéro. L'idée, c'est de vous offrir en plus de ce talk et de ce moment d'échange, encore plus de convivialité avec autour de la bonne food. Tu le disais, t'adores manger. Moi aussi, je pense que c'est quelque chose d'indispensable pour la convivialité, de goûter des bonnes choses. Et donc, du coup, on s'associera en partenariat à chaque fois avec des restaurateurs ou des traiteurs lillois pour vous régaler. Pour vraiment vous régaler, faire découvrir des bonnes saveurs. Ce sera pas le paquet de curly.
Oh non.
Non, ce sera vraiment des bonnes choses, et vous pouvez découvrir des nouvelles saveurs. Et c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que je pense qu'en tant que parent, on oublie un petit peu de penser à soi parfois, et on ne trouve pas forcément l'occasion de sortir. Et là, l'idée, c'est que pourquoi c'est en soirée? C'est pour justement vous inciter à sortir de chez vous et aller à la rencontre de personnes, même si vous ne les connaissez pas, parce que je sais à quel point c'est difficile, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu la naissance, ma maternité, ma matrescence seule. Je connaissais très peu de gens à Lille. Et en fait, ça m'a vachement manqué, et je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. Donc en fait, c'est l'occasion de venir rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies que vous. Et parce que c'est toujours un peu dur de dire je vais rencontrer des nouvelles personnes, mais bon, enfin, on va pas se comprendre. Là, les personnes vont vous comprendre. Et donc, vous allez pouvoir partager un bon repas, un petit verre avec ou sans alcool. L'alcool est à consommer avec modération, attention à la santé, dangereux, blablabla. Je suis obligée de le dire, je suis désolée. Mais en même temps, c'est vrai. Et on fait un épisode bientôt sur ce sujet-là, d'ailleurs. Donc voilà, ça va être génial. Ça sera donc de 19h à 22h. La prochaine édition, la première édition en tout cas, est le jeudi 21 septembre à 19h. Et on va parler du couple après les enfants. Un vrai, vrai, vrai sujet. Avec Agathe, la cofondatrice de Holy Mama, qui a déjà témoigné dans l'épisode 96 de Prenons un café. On avait parlé de ses enfants très rapprochés. Agathe a eu un premier fils et puis deux autres fils 15 mois plus tard, puisqu'elle a eu des jumeaux. Et elle a vécu un postpartum qui était très compliqué et un gros, 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 gros baby clash avec son amoureux, son mari, qu'ils ont réussi à résoudre. C'est quoi le mot surpasser, surmonter.
Mmh, surmonter.
Surmonter avec plein d'astuces. Donc, elle va nous raconter son histoire de couple avec un peu de chance. Alors, aujourd'hui, quand on enregistre,
c'est pas le cas.
Avec un peu de chance, son mari sera là et on pourra avoir les deux versions. Donc, ça pourrait être chouette. Bon, pour l'instant, c'est Agathe et c'est déjà extrêmement bien. Mais en tout cas, sachez que ce soit chez Comme Happy ou Surprenant un Café, il y aura le discours du mari.
D'abord.
Non, mais c'est vrai en plus. Mais en tout cas, j'espère très fort qu'il sera là. Et voilà, donc pour prendre votre place, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode, donc vous pouvez vous inscrire via ce lien. Il y a déjà des places qui sont parties, donc dépêchez-vous d'organiser votre emploi du temps pour être là à cette soirée-là si vous voulez en profiter, parce que ça va être super génial.
Ça, c'est sûr.
Et voilà, les places sont limitées, donc ne tardez pas trop. Bookez un babysitter ou prévenez votre conjoint ou votre conjointe, parce que ce sera votre soirée et ça va être super cool. Et je te remercie vraiment, Charlotte, de me donner cette opportunité parce que je suis trop contente en plus d'organiser ça ici avec toi.
Ça
va être trop trop cool. Et puis ben bravo pour Comme Happy.
Merci.
C'est super. Longue vie à cette jolie maison. Merci. En plus, c'est vraiment très très joli. C'est décoré avec goût. Donc bravo, bravo, bravo. Et puis ben si on veut plus d'infos sur Comme Happy, si on veut te contacter aussi pour une raison, pour des événements, pour des informations, comment ça se passe?
Alors du coup, soit le site internet, d'ailleurs il faut que je lance officiellement, mais il est déjà en ligne, donc sur comhappy.fr, mais je pense que tu remettras le lien, ou sur Instagram, comhappy-m comme maison en fait.
Ok, voilà. Et ben c'est super, merci mille fois Charlotte.
Merci à toi Élise.
C'était super
chouette.
À bientôt. Merci,
ciao, à bientôt.
Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de la saison 6 de Prenons un Café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un Café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un Café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Claude Choco écrivait « Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kid de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. » C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire, Claude Choco. Mille merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un Café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.